Alexandre. Écoute, je suis ravi de t'accueillir sur ce nouvel épisode de Stackcast. Aujourd'hui, tu vides ton stack pour le plaisir de tous les auditeurs et puis du mien, du coup, parce que j'apprends à chaque fois beaucoup de choses. Moi, je vais te poser des questions sur, voilà, sur tous ces outils que tu utilises au quotidien qui ne sont pas forcément numériques. Voilà, ça peut être tout un tas de choses qui te servent. Aujourd'hui, tu es au réseau Entreprendre, c'est ça?
Ouais, exactement.
Et tout ça a commencé comment?
Eh ben déjà, merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour vider mon stack avec toi. Donc tout ça a commencé, si je reviens sur mon parcours rapidement, on va dire j'ai fait des études assez classiques, plutôt école de commerce.
Ok.
Et ensuite j'ai enchaîné sur des jobs plutôt taillés pour quand tu sors d'école de commerce, donc en marketing plutôt dans des grosses boîtes.
D'accord.
Mais c'est un truc assez rapidement, je me suis rendu compte au bout de 2-3 ans que c'était pas forcément mon parcours idéal. Faisait, exactement.
Libre.
Et donc au bout de 2-3 ans, j'ai senti un peu un vide. C'est-à-dire que moi, je sentais plutôt le besoin de partir plus d'une feuille vierge plutôt que d'avoir des trucs ultra processés, ultra calibrés.
D'accord.
Et donc, j'ai créé en parallèle de mes jobs un site qui s'appelle Paris Zigzag, qui est un média en ligne sur Paris. On parle de Paris insolite, Paris secret, des bonnes adresses, beaucoup de contenu.
C'était avant le bonbon, tout ça? C'est avant.
Alors, c'était après le bonbon.
Là
où le bonbon a été très fort pour se positionner d'abord sur le papier, et après sur le web, on a commencé directement pure player digital. On est assez complémentaires parce que nous, on parle beaucoup de plutôt sous l'angle aussi historique, insolite, avec aussi des balades culturelles dans la ville pour découvrir un peu Paris, Paris autrement. Donc ça, j'ai monté ça en parallèle de mes jobs et assez rapidement, ça a pris de l'ampleur. C'est-à-dire que le trafic était au rendez-vous, la communauté commençait à se bâtir. Il y avait un début de business model parce que on en reparlera sans doute, mais le business model de la monétisation de communauté, il n'est pas toujours évident.
Non.
Mais en tout cas, il y avait des choses qui se passaient et donc je me suis dit un jour, mets-toi à temps plein sur le projet. Donc j'ai quitté mes jobs pour me consacrer à temps plein sur Paris Zigzag. Donc là, début de l'aventure entrepreneuriale. Je suis passé d'un hobby puisque j'adore Paris, j'adore son histoire. Donc c'était un truc qui m'éclatait à faire le soir et le week-end. Je suis passé de ça à une vraie aventure entrepreneuriale avec un projet, ambitieux, avec une équipe à constituer, des financements à aller trouver, etc. Et donc vraiment du statut de hobby à
temps plein,
vraie aventure entrepreneuriale, avec ses hauts et ses bas. Après, ça a été 6 années au total où je me suis éclaté.
6 ans? Ah ouais, d'accord. Ouais.
Alors, 6 ans, alors il y a une partie, moitié en parallèle, donc side project, en parallèle d'un job.
Ok.
Donc là, en termes d'organisation perso, c'est un sujet.
Ouais.
Et après, 3 ans, grosso modo, à temps plein.
D'accord.
Et donc, 6 ans au total où je me suis vraiment éclaté. Le métier principal de cette boîte, c'était de créer du contenu éditorial pertinent et à valeur ajoutée pour les lecteurs, pour fédérer la plus grande communauté possible sur les réseaux sociaux, sur la newsletter.
Et tu monétisais ça comment dans les premiers temps?
Ouais, on le monétisait de deux manières différentes. D'abord, il y avait un peu de publicité. C'était à peu près un tiers du chiffre d'affaires. Mmh. Et les deux tiers, surtout, en fait, c'était l'organisation de balades dans la ville.
D'accord.
À la fois en B2C, on organisait une dizaine de balades chaque semaine. Et puis en B2B aussi, beaucoup pour les entreprises.
D'accord.
Ça a été 6 années où je me suis éclaté. Et pour reboucler avec Réseau Entreprendre, j'ai eu la chance de croiser Réseau Entreprendre en tant qu'entrepreneur, Réseau Entreprendre, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une structure qui accompagne des entrepreneurs. C'est une aventure assez folle qui a commencé dans les années 80 dans le nord de la France, des grands patrons du nord qui se sont retrouvés confrontés au chômage et à une crise du textile, et donc ils ont eu l'idée de monter ce réseau. Le concept est toujours le même d'ailleurs aujourd'hui, c'est des chefs d'entreprise aguerris qui vont accompagner bénévolement les plus jeunes créateurs d'entreprise.
Ouais.
Gratuitement, ils le font bénévolement, ils ont plus interdiction d'investir dans les boîtes qui sont accompagnées. Bref, c'est un accompagnement de gens
hyper quali,
et surtout totalement désintéressés.
D'accord.
Et donc moi j'ai entendu parler de ce réseau que je ne connaissais pas à ce moment-là. Et donc, j'ai candidaté et j'ai été retenu en tant que lauréat.
Tu as été lauréat du Réseau Entreprendre.
J'ai été lauréat de Réseau Entreprendre Paris. Donc, il faut savoir qu'il y a des Réseaux Entreprendre partout en France. Et même le modèle a été aussi dupliqué à l'international. Et donc, j'ai eu la chance d'être accompagné plusieurs mois. Et en fait, à un moment donné, moi, je me suis rendu compte, je me suis un peu essoufflé sur mon projet entrepreneurial.
D'accord.
Pour deux raisons. Alors déjà, j'ai eu des galères d'associés. On avait cofondé la boîte à l'origine Et il y a eu des sujets.
Il y a eu des sujets.
C'est toujours compliqué l'association. Et en fait, en plus, comme je l'évoquais tout à l'heure, la monétisation d'une audience, c'est un business model qui est assez compliqué. Voilà, et à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais plus forcément la bonne personne pour porter le projet. Et un matin, je me souviens bien, je me suis réveillé, j'ai vraiment senti comme un soulagement où je me suis dit, bah en fait, je suis plus la bonne personne. Donc trouve quelqu'un d'autre pour reprendre le flambeau, parce que ce serait con que ces 500 000 lecteurs chaque mois qui venaient sur le site ne retrouvent plus leurs articles habituels et auxquels ils sont attachés. Ouais. Et donc je me suis mis à la recherche d'un repreneur. Et en plus, donc tout ça c'est bien enfin les planètes se sont alignées, parce que le moment où je me suis dit voilà que j'étais plus forcément la bonne personne, j'ai eu l'opportunité de céder. Et donc j'ai revendu la boîte en fin 2016.
D'accord.
Et voilà. Et donc
c'est dur en France de rechercher un repreneur comme ça, parce que je sais qu'il y a des marketplaces aux États-Unis où tu peux mettre un site e-commerce ou une communauté en vente comme ça assez facilement. Après, je sais pas comment ça se passe en France. C'est quand t'as allé taper à la porte de qui, t'es appuyé sur le réseau que t'avais.
Ouais, exactement. En fait, j'ai repris un peu tous les contacts que j'avais pu croiser dans le cadre de cette aventure.
Ah, ok.
Et tous les gens pour lesquels je me suis dit que ça pouvait avoir de la valeur pour eux.
D'accord.
Complémentaire. Donc j'ai pris un nombre incalculable de cafés. Voilà, on est un peu en roadshow, hein. Et finalement, on sent très vite les gens qui sont vraiment intéressés, les autres. Et puis il y a quand même, évidemment, c'est ton bébé, ta boîte, donc il y a un sujet d'affect.
Oui.
Il y a un sujet, voilà. Donc après, moi j'ai eu la chance d'avoir plusieurs boîtes qui sont positionnées.
D'accord.
Ce qui facilite évidemment les choses en termes de négociation, de timing, etc. Et j'ai fini par faire le deal avec une boîte d'ailleurs qui s'appelle Meet Me Out, qui était accompagnée aussi par Réseau Entreprendre Paris.
D'accord.
Donc on se connaissait déjà.
Ouais.
Et ça facilitait beaucoup les choses. Et en termes de, voilà, c'est vrai que c'est une période stressante. La session, voilà. Et puis on sort d'une période très intense qui est l'entrepreneuriat. On fait sortir de terre un projet. Là, l'idée, c'est de le céder. Donc, voilà, c'est une période particulière. Donc, au final…
Donc, tu revends ça.
Exactement, je revends la boîte. Là, c'est une période un peu bizarre où tu as cette charge hyper intense qu'est le fait de monter sa boîte à plus rien. Et donc, en fait, du jour au lendemain, tu te retrouves à une période où tu bosses comme un malade, à une période où, boum, le grand vide. Et en fait, moi, j'ai eu la chance de pouvoir très bien gérer cette situation. Parce que
c'est vrai que tout le monde ne gère pas.
Voilà, et en fait, pourquoi est-ce que j'ai réussi aussi à le gérer? C'est que en fait, j'ai rejoint l'équipe de Réseau Entreprendre. En fait, ça m'a permis de rester dans le milieu entrepreneurial, parce que moi, je ne me voyais pas retourner dans une grosse boîte ou retourner salarié de manière un peu classique. Je ne le sentais pas trop. Et finalement, voilà, j'ai rejoint cette aventure de ouf qu'est le réseau, où en fait, j'ai la chance d'être entouré de champions, finalement, avec d'un côté les lauréats qu'on accompagne, de l'autre côté les membres, donc les adhérents, donc les chefs d'entreprise qui cotisent à l'association pour pouvoir donner du temps bénévolement. Donc, c'est des gens en plus qui font ça de manière vraiment pour la beauté du geste et pour le succès, finalement. Ils n'ont aucun autre incentive que de voir grandir les boîtes qui les accompagnent. Donc, on est entouré de gens qui montent des projets de ouf et qui ont une mentalité incroyable et une humilité aussi folle. Et donc j'ai réussi à super bien gérer ça, parce que j'ai rejoint cette aventure, donc qui me permet à la fois d'être super autonome, parce qu'en fait on est très autonome dans notre job et on a une équipe fantastique, et puis en fait ça me permet de rester en contact avec l'entrepreneuriat.
Donc t'as pas c'est le prolongement en fait de ce que t'aimais le plus faire en fait avec Paris Exact.
Ouais, exactement. C'était
de retrouver d'autres entrepreneurs, quoi, finalement.
C'est ça. Et c'était assez naturel pour moi, parce que j'ai tellement aimé l'accompagnement de Réseau Entreprendre Paris.
Tu t'es dit, il faut que je passe derrière.
Exactement. Qui avait été finalement un peu avorté, parce qu'il avait duré une petite année, que je me suis dit, je ne peux pas les quitter comme ça. Ouais. Et donc, je me suis dit, rejoins-les en salarié. Et ça fait maintenant plus de 2 ans que j'y suis.
Okay.
Et tous les jours, j'ai pas tellement l'impression d'aller bosser, en fait. Donc, c'est un vrai luxe.
Et dernièrement, tu en as profité pour prendre des cafés avec 400 managers.
Voilà, exactement.
De rencontres, d'entreprises. Et tu nous sors un bouquin incroyable qui s'appelle Dream Team. Et vous pouvez tous acheter sur Amazon. Et qui, dis-nous ce qu'il y a à l'intérieur de ce
Déjà, peut-être en deux mots, la genèse du projet. C'est que moi, il y a 3 choses qui m'ont poussé en fait à écrire ce bouquin.
Ouais.
La première, c'est qu'au début de mon parcours, moi j'ai assisté malheureusement à ce que j'appelle des catastrophes humaines, c'est-à-dire des liées directement à du mauvais management. Donc c'est des choses qui m'ont à titre perso profondément marqué. Surtout quand tu débarques dans le milieu du travail où t'as 23 ans, tu te dis c'est l'angoisse, c'est ça ce truc, c'est ça le monde du travail qui m'attend pendant les 50 prochaines années. Donc c'est des choses que j'ai profondément gardées en moi. La deuxième raison, c'est que Quand moi-même, je me suis retrouvé en position de manager, et notamment aussi quand j'ai entrepris, quand j'ai dû moi-même constituer mon équipe, je me suis rendu compte à quel point c'est dur, on se sent seul, c'est hyper souvent ingrat, c'est vraiment, je me suis rendu compte à quel point c'était chaud. Et c'est vrai qu'en plus, on ne t'apprend pas ça à l'école. Oui. L'école de commerce, malheureusement, le management, c'est que dans le titre école de management. Dans le reste, ça suit pas trop à ce niveau-là. Mm-hmm. Peut-être que ça a changé, mais en tout cas, à mon époque, c'était moins le cas. Et donc, difficulté, et je ne savais pas trop comment m'y prendre. Et chez Réseau Entreprendre, encore une fois, j'ai la chance d'être entouré de personnes incroyables qui, tous les jours, elles me témoignent et me partagent leurs astuces, pratiques, etc. sur comment recruter et fidéliser la meilleure équipe possible.
Oui, donc, très bonne école, finalement.
Donc, la meilleure école possible. Et donc, je me suis dit, lance-toi. En plus, j'adore écrire chez Paris Zigzag, c'était l'un de mes métiers. Et donc, je me suis dit, va à la rencontre d'un maximum de monde. J'avais déjà cette super matière première, puisque tous les jours, quasiment, je notais sur mon téléphone tout ce que je pouvais entendre sur le sujet du management qui m'a toujours intéressé. Et je me suis dit, va à la rencontre, au-delà de ces personnes-là, d'un maximum de personnes, à la fois en start-up, en PME, en grand groupe, parce qu'il y a du bon et du mauvais partout. Et voilà, donc ça a donné Dream Team, qui est sorti il y a quelques semaines maintenant, qui est 300 pages, c'est un concentré des meilleures pratiques de plus de 400 managers, à la fois pour recruter, mais c'est pas du tout que sur le recrutement, c'est qu'un chapitre, c'est derrière sur comment les accueillir, comment mener des points one-to-one efficaces, comment mener des réunions d'équipe impactantes. Moi j'appelle ça un peu le guide de survie du manager. J'ai écrit en fait le livre que j'aurais aimé qu'on m'offre en tant que manager. Donc c'est les retours que j'ai en tout cas des lecteurs. Donc j'ai la chance de le voir très bien positionné sur Amazon, numéro 1 des ventes sur plusieurs catégories. Et donc le retour que j'ai des lecteurs, c'est que en fait le ton est très direct aussi. Je ne tourne pas autour du pot. C'est très concret
tout à fait.
L'idée c'est que ce soit un livre très actionnable et qu'une fois que tu lises un chapitre, tu puisses dans la foulée mettre en pratique les premiers conseils.
Il y a dans le deuxième épisode avec Jean-Baptiste Roncin, il disait en fait qu'il y a des méthodes, livres, il parlait plutôt de bouquins, mais ça peut s'appliquer à des méthodes, qu'il faut connaître tout simplement parce que les gens avec qui tu parles les connaissent. Donc en fait, il y a des codes. Et ce que moi j'ai apprécié dans la transparence, l'honnêteté, le fait d'être direct dans ton propos, c'est que. Tu dis pas aux gens que les méthodes sont parfaites ou quoi que ce soit. Tu dis c'est juste ce qui marche et que c'est utilisé par beaucoup d'entreprises. Donc en fait ça donne un signal très très fort et pour l'avoir mis dans les mains de nombreuses personnes, de nombreux managers, c'est vrai que t'es happé tout de suite parce que t'as tout de suite une problématique que tu connais en fait tout de suite sur les nombreuses méthodes. Donc je confirme effectivement que le style direct est super appréciable parce que du coup tu tournes pas autour du pot et puis tu donnes vraiment des codes qui sont difficiles à choper en général.
Merci pour ce retour, c'est effectivement en tout cas comme ça que j'ai essayé de le concevoir. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est clair que moi je suis pas un grand gourou du management. De toute façon, le management c'est galère. Moi j'ai fait de la merde dans le management longtemps avant de m'intéresser à ces sujets et du coup de me corriger petit à petit. Mais j'ai effectivement centralisé les meilleures pratiques, celles qui fonctionnent au quotidien.
Oui, c'est ça. Voilà.
Après, elles doivent s'adapter chacun à son contexte et à son style.
Et c'est ce que tu dis d'ailleurs au début.
Exactement.
Bouquin.
Et l'idée, c'est que ce soit un bouquin effectivement déculpabilisant parce que si, de toute façon, le management, c'est dur et se planter fait partie du jeu d'ailleurs. Donc l'idée, c'est effectivement de petit à petit s'améliorer avec la mise en place de tel ou tel conseil pour commencer et puis de grandir au fur et à mesure.
Qu'est-ce qu'il y a sur la home screen de ton iPhone? Est-ce que tu es plutôt light, plutôt chargé en termes d'app? À quoi ça ressemble?
Alors, en fait,
c'est quoi? C'est un iPhone déjà?
C'est un iPhone, ouais. Ok. J'ai un iPhone. J'ai essayé d'ailleurs le tout premier, et là je me disais qu'il fallait que je réessaye le Fairphone. J'ai beaucoup de réflexions perso sur comment est-ce que je peux transformer ma propre consommation.
Oui.
Et j'avais essayé la toute première version du Fairphone.
Kickstarter, non? C'est tout.
Ouais, exactement. Ouais. Qui était honnêtement, je vais pas leur faire de la pub sur cette version-là, qui n'était pas terrible.
D'accord.
J'ai utilisé 2 mois. Je sais qu'il y a eu des nouvelles versions qui sont beaucoup mieux maintenant aujourd'hui, donc je compte essayer. Mais grosso modo, pour répondre à ta question, si je me lance dans l'énumération des applis qui sont sur ma home screen, ça va être assez chiant. Parce qu'en fait, et d'ailleurs, j'essaie de la purifier en fait avec le temps. Ouais. C'est-à-dire que moi, je suis dans une logique où je me rends compte à quel point, et j'ai pour habitude de dire ça, c'est-à-dire que mon téléphone n'a jamais été aussi intelligent, mais il ne m'a jamais rendu aussi con. C'est-à-dire qu'en fait, Ouais. On est gavé d'applis, de trucs, de machin, mm-hmm. et qui sont faites pour te rendre le plus accro possible. Et chez moi, ça fonctionne hyper bien. C'est-à-dire que je suis accro à mon téléphone. Ouais. C'est très compliqué pour moi de pas le prendre entre les mains plus de. Quand il se passe 3 minutes sans que j'ai pu le voir, je ne me sens pas bien. Et donc, j'essaie de me soigner. Et donc, en fait, pour me soigner, ça passe par, entre autres, supprimer des apps que j'utilisais très régulièrement. Et je réfléchis même à reprendre un téléphone des années 2090, un espèce de 3310.
Tu sais qu'il est ressorti, du coup.
Je sais.
J'y pense, là. Mais ouais. Il est ressorti,
exactement. Le 3310. Il a été ressorti. Il y a le téléphone aussi dans Matrix. Je sais qu'il a, il y a aussi une réédition qui a été faite il n'y a pas longtemps. Parce que j'ai l'impression que je ne suis pas le seul à vouloir limiter ma consommation de mon téléphone.
C'est une vraie tendance que de vouloir se désynchroniser.
Ouais, et donc en fait, honnêtement, ma home screen, donc l'idée, ce n'est pas de supprimer toutes les apps parce qu'il y a quand même du vrai progrès là-dedans et qu'il y a des outils qui sont indispensables, notamment pour le boulot, des LinkedIn ou autres. Mais j'essaye de limiter mon temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon téléphone, je le prends à peu près 250 fois, j'avais regardé, par jour.
D'accord.
Complètement délirant. Et en fait, je sais que c'est comme la bouffe. Moi je sais que les chips, j'en suis malade et si je m'achète un paquet de chips, je vais le défoncer en 5 minutes juste après être rentré des courses. Et donc en fait, la meilleure méthode pour moi de me guérir de ça, c'est de ne jamais acheter de chips. Et là, on est chez moi, tu peux regarder, il n'y a pas de chips.
Non, il n'y a pas de chips, c'est des œufs.
Il y a des œufs bio. Et en tout cas, c'est pareil pour les apps en fait, c'est-à-dire que j'essaie de d'en faire une consommation la plus low possible, donc je suis plutôt tendance low-tech, j'essaye de garder des plages dans la journée pour me consacrer à effectivement consulter LinkedIn, mes messages, etc. Parce que sinon, je suis en continu dessus, de manière complètement compulsive. Et en fait, ça ne sert à rien déjà parce que ça ne t'apporte rien. Et ça te défocus de des vrais sujets sur lesquels tu peux être beaucoup plus productif.
C'est du sucre, tout ça. Hein. C'est exactement. Du sucre, c'est directement dans les veines.
C'est ça. Et, voilà.
Et les meilleures startups, d'ailleurs, sont celles qui comprennent le mieux ça. Et c'est en ça que ça pose tout un tas de questions de savoir comment, à un moment donné, on peut se protéger tout en bénéficiant du service. C'est une vraie tendance.
Et c'est la difficulté de ces services qui sont à la fois pour faire en sorte que tu le consommes de plus en plus. Mais comme il y a cette vraie tendance, comme sur tous les pans de la consommation au global, qui vont vers plus de responsabilité, je vois qu'elles mettent en place des systèmes. Donc, je pense qu'elles sont confrontées effectivement à ce dosage entre comment rendre accro les gens, mais sans passer pour le grand Satan qui, comme l'industrie du tabac à l'époque, les rend accro à mauvais escient.
Je crois que c'est Idriss Aberkane qui dit qu'un baril d'attention vaut plus cher qu'un baril de pétrole aujourd'hui, et c'est un peu cette guerre-là qui se joue sur ces home screens.
Exactement. Donc moi je réfléchis, en fait, j'ai pas encore trouvé la martingale. Je rêve, si quelqu'un d'ailleurs la développe en ce moment ou l'a trouvé, d'une appli en fait qui me permettrait en un clic de transformer mon iPhone en dumbphone, donc en 3310 des années, d'il y a 15 ans, où effectivement je puisse uniquement recevoir des appels, envoyer des SMS avec un nombre limité de caractères, ça me poussera au moins à aller à l'essentiel. Et de ne pas être entrecoupé par 18
notifications. Si quelqu'un connaît cette app, qu'il n'hésite pas.
Exactement.
Je ferai mes petites recherches aussi.
Ouais, avec plaisir.
Ce que je trouve.
Merci.
Et sur cette question d'outils, donc, puisqu'on met un peu les pieds dedans via le truchement de ton iPhone, est-ce que, en termes d'app métier que tu utilises plutôt sur ton ordi, quels sont un peu les outils que tu utilises, ceux que tu préconiserais? Est-ce que tu es quelqu'un qui utilise d'ailleurs les outils un peu nouvelle génération, ou est-ce que finalement les outils traditionnels type Suite Office, Adobe, à quel profil?
Moi je suis pas le profil ultra early adopter du tout.
Okay.
Parce que encore une fois, je suis plutôt dans la démarche d'être confronté à une problématique,
oui,
et après derrière à chercher un truc qui peut me rendre service.
D'accord.
Plutôt que certains, moi je sais, c'est leur passion de regarder les dernières sorties, ils les testent même s'ils ne sont pas forcément les premières cibles, parce qu'ils adorent ça. Moi c'est moins ça. Honnêtement…
Toute ta connaissance, tu sauvegardes où tu
Ouais, moi il y a un truc que j'utilise qui est Evernote,
okay,
qui est pour moi, et comme en plus je suis un peu aussi un multi… Tasker, quoi, slasher, je sais pas. Bon, en tout cas, j'aime bien bosser. En général, j'ai souvent plusieurs projets dans les cartons.
Par exemple,
Dream Team, c'était exactement ça. Je l'ai fait le soir et le week-end en parallèle de mon boulot. Paris Zigzag, c'est né comme ça, le soir et le week-end. Je suis comme ça, en fait. J'adore avoir plein de projets. Et parfois, je me fatigue un peu, mais bon, je commence à l'accepter. Et typiquement, Evernote, c'est un super outil pour centraliser Tiens, dès que je pense à un truc, tiens, je reçois un mail qui est en lien avec ce sujet-là, je peux le sauvegarder aussi dessus. Tiens, une photo que je prends dans la rue ou un fichier qu'on m'envoie. Voilà, c'est aujourd'hui, c'est ma base sur laquelle je centralise tout et qui me permet de.
C'est un outil qui est mature. C'est-à-dire que complètement. Aux outils qui viennent de sortir et qui peuvent être un peu chouettes, celui-là est mature.
Exactement. Voilà. C'est pour ça que je disais, je ne suis clairement pas un early adopter. Hein, il est sur le marché depuis longtemps. Il a fait ses preuves. Et en tout cas, moi, il m'accompagne tous les jours sur tous les projets sur lesquels je peux bosser.
Ok, et après tout ce qui est mail classique, suite.
Assez classique là-dessus, honnêtement, j'ai pas de. Voilà, c'est plus derrière une discipline personnelle, encore une fois, pour éviter, parce que je pourrais passer ma journée à répondre à mes mails et à regarder les mails qu'on m'envoie. J'essaie de m'imposer, tout comme les apps, cette discipline de me dire ok, je regarde que 3 fois par jour mes mails, une fois le matin, une fois en fin de matinée et une fois en fin de journée, pour faire en sorte de ne pas être pollué par ça et de pouvoir être une machine pendant une heure où je ne fais que répondre à des mails. De manière très efficace, plutôt, sinon, en fait, le même travail que j'aurais fait en 3 heures, je pourrais le faire en 8 ou 9 heures si je reste derrière mon écran à attendre que mes mails arrivent et surtout répondre au fil de l'eau.
Et sur les outils type, du coup, les méthodes, en fait, que tu vois passer, que tu as un peu capitalisé sur, dans ton bouquin, c'est des choses aujourd'hui... dont tu te sers un peu au quotidien pour, dans le réseau pour accompagner les entrepreneurs.
Sur le management, par exemple
ou sur le management, sur toutes les... tu vois, on parlait tout à l'heure des balance scorecards, toutes ces choses-là. C'est quoi, là, les 2-3 sujets du moment, en ce moment, dans le management?
Alors déjà, si je prends un peu plus de hauteur, c'est sur une méthode assez large que je trouve assez intéressante, que je m'applique moi... À titre perso, c'est la méthode Kaizen qui vient du Japon, qui a été inventée par les fondateurs de Toyota.
D'accord.
En gros, je simplifie le truc, mais c'est la politique des petits pas. Plutôt que d'essayer de tout révolutionner d'un coup, en général, ça ne marche pas. En fait, on le fait petit à petit. D'ailleurs, dans Dream Team, j'en parle un peu sous je pense, ce truc de la brochette, où je dis qu'en fait, si tu essaies d'enlever tous tes morceaux de viande du haut, vers le bas, tu vas grave galérer, tu en fous partout.
Oui.
Alors qu'en fait, si tu fais morceau de viande par morceau de viande, en fait, ça se passera bien. Et c'est exactement la même logique, c'est que face à un problème complexe, c'est de ne pas essayer de tout faire et de le faire petit à petit. Et en management, c'est la même chose. Essayer de révolutionner du jour au lendemain ces pratiques, ça ne fonctionnera pas parce que, un, en général, on fait mal parce qu'on n'est pas très focus. Et deux, en plus, l'équipe qui est habituée à un certain style de management de notre part, va pas trop comprendre. Et ça fera vraiment virage mal fait, grosse ficelle, où en fait, je viens de lire un livre pertinent ou je viens d'assister à une formation et j'essaye tout de suite d'appliquer tout ce qu'on m'a dit. En fait, ça peut pas marcher comme ça.
Les gens ne suivent pas sur ça. Quoi.
Exactement. Donc, je pense qu'il y a un premier sujet qui est de se dire d'accepter que les choses prennent du temps et donc d'y aller petit à petit. Et la méthode Kaizen, moi, je me l'applique sur plein de sujets. On pourra en parler peut-être tout à l'heure. Mais
tu veux dire perso aussi?
Ouais, à titre perso, par exemple, le routine perso que je me suis mise, c'est le sport le matin. Moi, je suis pas un grand sportif de base.
C'est quoi, 6h, 7h
le matin?
Ouais,
vers 7h.
7h?
Ouais. Ça dépend. Dans le cas, par exemple, quand je bossais sur le livre, c'était plutôt 6h. Là, c'est plutôt 7h.
D'accord.
Et en fait.
Et tu t'y tiens?
Je m'y tiens, ouais.
D'accord.
Et en fait, je m'y tiens aussi parce que ce que je fais le matin, donc je fais un peu de guitare, je fais un peu de méditation parfois et j'ai une petite routine de sport qui est très simple et pareil, comme je suis pas un grand sportif de base, au début j'ai commencé, j'ai pris un truc sur YouTube, le premier truc venu, je l'ai fait, j'étais massacré, j'étais épuré, j'ai tenu 3 jours et voilà. Et en fait j'ai appris à la base et j'ai commencé par 20 secondes de gainage, 30 secondes, 40 secondes, un peu plus tous les jours, le Kaizen, voilà. Et en fait, et aujourd'hui je fais une minute 30 et j'ai enrichi ça d'autres exercices. Des squats, des trucs comme ça. Mais en gros, c'est la politique des petits pas.
Il y a énormément de méthodes de management qui s'appliquent dans la vie perso. On en discutait avec les cofondatrices de Maria. Le management, ça s'applique à peu près à toutes les relations humaines de la vie. Et c'est vrai que ceux qui ont ces outils-là, j'ai l'impression parfois, ils ont un peu d'avance sur les autres. C'est parce que ça c'est des outils de développement personnel. Il n'y a pas de limite pro perso. On a interviewé aussi Sylvain Thillon sur le dernier podcast là, qui expliquait que pour sauver son association avec son co-founder, il a déjeuné une fois par semaine avec lui pour avoir un temps neutre. Pas de sujet, pas d'objectif, rien. On déjeune, on parle. Si on attend les vacances, on parle des vacances qu'on attend. S'il y a des problèmes dans le couple, on parle des problèmes de couple. Et en fait, ça, évidemment que c'est théorisé à l'infini et préconisé dans les méthodes de management. Donc c'est.
T'as complètement raison. Souvent les meilleurs managers, c'est les parents.
Mais oui.
Quand t'as des galères de couple, en fait c'est du management. Enfin, entre guillemets, en tout cas c'est de l'humain. Parce que le management, c'est avant tout, et moi j'ai été bluffé par la générosité des 40 personnes, des 450 personnes, et qui sont tous cités à la fin. J'ai été bluffé, mais en fait, je me suis rendu compte que le management, c'est de l'humain, c'est de l'affect, ce sont des émotions, donc ça parle à tout le monde en fait. C'est vraiment universel, c'est ce qui est le propre de l'homme. Et donc, en fait, pour rebondir sur ce que tu dis, une des clés aussi, et une des tendances, c'est de réussir justement à prendre du temps pour prendre de la hauteur par rapport au quotidien et au business as usual, le run, on l'appelle comme on veut, mais l'opérationnel, ce qui nous bouffe 95% de notre temps. Et c'est d'ailleurs l'un des travers dans lesquels tombe la majorité des managers, c'est que souvent, malheureusement, quand on est manager, on est aussi dans l'opérationnel. Et donc, en fait, en général, ce qui passe à la trappe, c'est le management, c'est les équipes. Alors finalement, ça devrait être l'inverse. Et le fait d'avoir des points one-to-one qui sont faits chaque semaine, le fait de systématiquement... En tant que manager, sa problématique, c'est pas de se dire « Ok, qu'est-ce que j'ai à 17h ?»« Ah oui, c'est un rendez-vous client, c'est important, ceci, cela. » Le matin, quand on se barre pour le trajet entre chez soi et le boulot, c'est de penser à son équipe, ce qui se passe dans la tête d'Alexandre.
C'est ça, se mettre dans les chaussures.
Exactement, de se dire « Comment est-ce que je peux faire pour l'aider à le ou la développer ?»« Pour l'aider, de quoi est-ce qu'elle a besoin pour être encore meilleure en fait ?»« Qu'est-ce qui lui prend du temps ? Qu'est-ce qui lui bouffe de l'énergie ? Qu'est-ce qui lui en donne ?» pour la connecter à son talent et à mettre à sa juste place. Et donc, c'est vraiment ça. Une des tendances aussi, en tout cas, ce qui est évidemment recommandé, c'est de consacrer au moins une demi-heure par semaine à chacun de ses collaborateurs pour ne pas parler des sujets en cours, mais pour parler comment ça va, comment tu te sens, comment est-ce qu'on peut faire pour mieux t'accompagner, mieux t'aider, c'est quoi ton mood du moment. Parce qu'en fait, c'est dans ces moments-là que... la transmission d'énergie se fait, que l'engagement en fait se crée, que la confiance entre le manager et le collaborateur se crée. Et si c'est pareil avec les enfants et c'est pareil en couple, si on n'a pas de moment pour se dire comment on sent en ce moment, même en couple, comment ça va, toi comment tu te sens dans notre couple, de quoi est-ce que tu as besoin pour être encore plus épanoui dans notre aventure à deux, et ben en fait du coup ça crée des non-dits, on se les dit pas, et puis c'est un jour il y a le risque un peu de cocotte minute où soit on explose, on abandonne aussi la relation, ça se voit beaucoup en management, où en fait on n'a même plus envie de faire l'effort, de se dire les choses, parce qu'en fait on se dit que ça sert à rien.
Champ de mine.
Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas cette instance entre guillemets, et l'association c'est pareil, ce qu'on recommande évidemment à tous nos lauréats qui sont dans la majorité des cas associés, c'est de prendre du temps en effet pour parler de leur association. Et si on n'a pas ces moments dédiés à ça, c'est le début du sous-management, donc qui est l'inverse du micro-management. C'est-à-dire qu'en fait, on délaisse un peu le collaborateur et ses moteurs. Et donc là, c'est le début un peu de la fin.
Et on t'a parlé un peu de team building, tout ça, ou pas du tout ? Est-ce que c'est encore la mode Non, parce que d'après ce que je comprends, c'est que c'est un peu tous les jours qu'il faut le faire. Pas une fois par an, quoi.
En fait, c'est tous les jours. C'est-à-dire le team building, j'en parle dans le livre, c'est un peu le syndrome de la Saint-Valentin qu'il faut absolument... D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on fait le parallèle entre pro-perso à chaque fois. Parce que c'est l'humain. Et il n'y a rien de pire qu'un boss qui va délaisser ses équipes, voire même parfois un peu les tyranniser ou les frustrer pendant toute une année, et qui va essayer de se rattraper
avec le séminaire. Avec
le putain de séminaire à Djerba, avec un hôtel de malades, open bar.
C'est un gros biais de beaucoup de boss.
Exactement. Et donc, en fait, ce qui est évidemment, ça se joue, la confiance, elle se gagne au quotidien, quoi. Évidemment. Et l'engagement, il se joue au quotidien, dans les petits détails. Et c'est pareil dans le couple, c'est pareil avec les enfants, c'est pareil dans toutes les relations humaines, en fait. Donc, et en revanche, le team building est essentiel, mais pas une fois par an, le plus régulièrement possible. Je parle dans le livre de l'équation de la bonne ambiance, où en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait trois éléments clés pour la bonne ambiance. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail. Mais passer du temps off ensemble, évidemment, en fait partie. Donc, que ce soit soit chaque semaine avec une bière informelle dans le bar du coin, soit tous les trois mois, partir un peu plus loin, vraiment sortir du bureau, sortir de l'univers du boulot. C'est des choses qui restent évidemment indispensables.
Il y a une question de confiance aussi, j'imagine. C'est que c'est la base un peu de tout ça. C'est qu'au-delà du profil, au-delà des compétences, c'est que si tu fais confiance en quelqu'un, et que tu es sûr que tu peux compter sur lui n'importe quand, ça fait un très très bon terreau de départ, Et c'est, oui, effectivement, cette confiance-là, tu es obligé de la travailler. C'est,
Elle est clé, la confiance, parce que déjà, donc, en faisant toutes ces rencontres, j'ai pu théoriser un peu la confiance et je me suis rendu compte qu'il y avait trois piliers à la confiance. C'est l'empathie, la transparence et la cohérence.
Oui.
Et en fait, si tu es empathie, tu es en capacité de te mettre à la place de l'autre, de mieux comprendre un peu ce qui se passe dans sa tête,
ouais.
La transparence de tout se dire et la cohérence de ne pas dire A le matin et B le soir.
Oui, c'est ça.
Et de retourner sa veste
toutes les deux
secondes,
quoi, ouais.
Être lisible. Bah en fait, si tu n'as pas ces trois éléments qui sont réunis, la confiance, elle a du mal à s'installer. Et ce qui est terrible avec la confiance, c'est que c'est Jean-Paul Sartre d'ailleurs qui a cette belle citation, je crois, sur la confiance. C'est, il dit qu'elle se gagne en gouttes, mais elle se perd en litres.
Ouais,
et il a tout à fait raison. C'est-à-dire qu'en fait, on peut mettre un an à gagner la confiance de quelqu'un. Et si un jour, on va merder. Et ben en fait, toute la confiance peut être remise en cause. Et c'est d'ailleurs pareil dans les relations amicales, amoureuses ou autres. Donc effectivement, c'est à la fois clé et extrêmement fragile.
Et il y a un gros sujet aussi sur la culture. Alors, je sais pas, ça fait un gros stack de management là, mais sur la culture, j'imagine que plus elle est travaillée, plus elle est conscientisée par l'équipe le top management, plus c'est simple de manager des gens, non?
Ouais, bah en fait, plus la culture elle est conscientisée. Écrite aussi, c'est-à-dire
oui, posée.
Il y a les valeurs posées, réfléchies. C'est pas de la. En général, la culture, en fait, elle est déjà vécue, elle est déjà
c'est ça,
là.
Elle existe déjà.
Moi, j'ai pour habitude de dire que la culture, c'est la manière dont se comporte la boîte quand elle n'est pas regardée, quand elle n'est pas sous feu des projecteurs.
Ouais.
C'est la manière dont elle se comporte en fait naturellement. Mais c'est important de poser des mots dessus. C'est pour ça que c'est important de bosser sur des ateliers de mission, de vision, de valeurs, pour partager tout ça. Et surtout derrière, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on l'a posé, c'est un super filtre, notamment. À la fois pour recruter des gens et à la fois aussi, malheureusement, parfois pour s'en séparer.
Oui.
C'est-à-dire quelqu'un qui ne partage pas ou plus les valeurs de la boîte, c'est un super outil en fait, pour rationaliser aussi un ressenti de part et d'autre. Hein. C'est toujours à double sens, un recrutement ou un départ. Mais c'est aussi de s'appuyer sur ces valeurs pour se dire malheureusement, j'ai l'impression que tu ne partages plus tellement les valeurs, parlons-en. Et si c'est le cas, se dire que la personne, du coup, elle n'est pas forcément à sa bonne place et qu'elle trouvera de toute façon nécessairement ailleurs une culture qui lui conviendra.
Super. On va parler un peu des bouquins, des ouvrages qui t'ont plu, que tu lis en ce moment ou que tu as déjà lu. Est-ce que t'en aurais deux, trois là qui viennent à l'esprit ?
Ouais, le premier, c'est un bouquin qui s'appelle Sun Tzu, de l'art de la guerre à l'art de diriger. Donc en fait, c'est pas le bouquin original de Sun Tzu, donc, qui était un général chinois. Ses écrits, donc c'est l'art de la guerre.
L'art de la guerre, oui.
Et d'ailleurs, c'est marrant parce que moi j'invite tout le monde à le lire, parce que souvent quand on pense que l'art de la guerre, on pense que c'est l'art de bien faire la guerre, et en fait ce qui est intéressant, c'est que quand tu lis le truc, tu te rends compte que c'est l'inverse,
c'est l'art de
ne pas faire la guerre.
Ouais.
L'art de, ou en tout cas, de gagner la guerre sans même avoir besoin de la faire.
Ouais, c'est ça.
C'est-à-dire d'être suffisamment dissuasif vis-à-vis de tes adversaires potentiels. Ouais. Pour qu'il n'ait même pas envie de t'attaquer et que tu gagnes en fait comme ça. Et donc c'est un livre donc de l'art de la guerre à l'art de diriger de Domiti Germain qui elle en fait a utilisé les écrits de Sun Tzu, issu de l'art de la guerre, pour l'appliquer au management et à la stratégie d'entreprise. Et ce qui est hyper intéressant, et du coup ça fait réfléchir sur pas mal de choses à mettre en place pour justement éviter le conflit, mais de la bonne manière, c'est-à-dire dissuader ses potentiels adversaires d'aller sur ces plates-bandes.
D'accord.
Sur le Kaizen, j'en parlais tout à l'heure, il y a plusieurs bouquins qui existent sur le sujet, mais c'est toujours intéressant de lire un peu les théories qui existent, les différents outils autour de ça, parce que ça permet de mieux ancrer le truc en soi, et de mieux l'appréhender, et du coup, au final, de mieux l'appliquer. Et il y a un autre livre qui me vient en tête, que j'ai lu il n'y a pas longtemps, qui s'appelle « Les vertus de l'échec », écrit par Charles Pépin, qui, en fait, est hyper intéressant parce que il revient sur plein de success stories de J.K. Rowling à Agassi, ou à la fois dans le sport, dans l'écriture, dans les arts, où il y a beaucoup de success stories, et dans l'entrepreneuriat, il y en a plein, de gens qui sont magistralement plantés avant de réussir. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de lire dans ce livre en quoi est-ce que le fait de s'être planté leur a permis, au final, de réussir. Et ça permet aussi de planter, ça fait partie de la vie, et on apprend en général beaucoup plus de ses échecs que de ses succès. Et donc, en fait,
savoir que d'autres l'ont fait,
on relativise, et c'est surtout, j'aime bien ce truc de c'est toujours le verre à moitié plein. Ok, c'est la merde, c'est la galère, comment est-ce que je transforme cette galère en opportunité pour la suite? Et parce qu'encore une fois, ces gens-là, J.K. Rowling, elle s'est fait recaler je crois de 13 ou 17 maisons d'édition, son manuscrit d'Harry Potter. voilà, c'est, en fait, elle n'a pas lâché, elle s'est accrochée et elle a fait de ce truc-là une vraie hargne qu'elle a transformée en, en force positive. Et ce qui a fait qu'elle n'a pas lâché. Donc, Harry Potter est devenu évidemment le succès qu'on connaît. Et des exemples comme ça, il y en a à l'appel. Donc, ça, je trouve ça toujours très inspirant.
Un grand merci pour avoir vidé ton stack Accès Management.
Merci à toi.
J'espère que ça va aider énormément de gens. Le but de cette émission, c'est vraiment de donner des codes et puis pour que vous tous, vous puissiez aller chercher individuellement les liens qui sont cités, les méthodes, les livres, les apps qui sont cités par tous ces leaders. Je donne rendez-vous sur un prochain épisode de Stackcast. Encore une fois, mille merci Ludovic pour le bouquin que tu viens de sortir, donc Dream Team sur Amazon. Vous allez le trouver, à mon avis, assez rapidement. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter sur stackcast.com. Merci.
Merci Alexandre.